Toute histoire d'amour a un début. Un jour, ça commence. Un jour, il y a un démarrage plein d'enthousiasme et de promesses. Souvent, d'ailleurs, c'est sur ce démarrage, sur la fin de ce démarrage, que s'arrêtent les films hollywoodiens, alors qu'on sait que l'amour, c'est pas toujours facile, que ça donne, qu'il y a des défis à surmonter. Mais ce souvenir du démarrage enthousiaste, ça donne des points de repère. Ça donne quelque chose à viser, quelque chose vers quoi chercher à revenir quand on s'embourbe dans le quotidien. C'est l'impression que me donne le texte que nous allons lire ce matin. C'est le texte qui parle des débuts enthousiastes de la première église, de l'église de Jérusalem. J'ai déjà prêché dessus, et si vous étiez là l'an dernier, il est possible que vous vous en souveniez. Mais il fait partie de ces textes qui nous rappellent ce qu'il faut viser. Donc nous allons lire dans Actes 2. Peut-être que si c'est un texte que vous connaissez, vous pouvez juste écouter pour être attentif à ce qui est lu. Acte 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Pourquoi aimons-nous ce texte ? Je présume que vous aimez ce texte. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Pourquoi aimons-nous ce texte? Est-ce à cause de la croissance qui se trouve dans ce texte? On voit la croissance, elle est omniprésente. Le texte débute avec un plus 3000, et plus 3000 sur une communauté de 120. Hein, ça fait plus 2500%, comme ça, d'un coup, en un jour. Je pense qu'il ne devait pas connaître tout le monde. Moi, ce n'est pas la croissance, ce n'est pas à cause de la croissance que j'aime ce texte. Est-ce que c'est à cause de ce qu'ils font? On les voit, ils écoutent l'enseignement des apôtres, ils vivent comme des frères et sœurs, ils partagent le pain, c'est-à-dire ils prennent la Sainte Cène, ils prient ensemble. Quatre piliers de la vie chrétienne. Le programme est intéressant, complet, rempli. C'est pas ça non plus que j'aime dans ce texte. Ce que j'aime dans ce texte, c'est l'enthousiasme qui s'en dégage. Et on le voit dès le verset 42 avec deux mots, deux adverbes, régulièrement et fidèlement. Régulièrement et fidèlement, ils vivent cela. Ils sont fidèles, c'est-à-dire que, ils sont là. Tout le temps, à toutes les réunions, tout le temps ensemble, et régulier. C'est-à-dire qu'il continue dans la durée. Chaque jour, il est écrit plus loin. Et en lisant ce texte, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas une obligation de participer. Ce n'est pas parce qu'il y a des réunions et que parce qu'on est chrétien, il faut y aller. S'ils y vont comme ça régulièrement et fidèlement, c'est par enthousiasme. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de vivre une vie d'église aussi remplie? Sans doute, ces premiers chrétiens au premier siècle n'avaient pas d'embouteillage pour aller au travail, pas de révision à faire pour le devoir de la semaine prochaine, pas de réunion parents-prof tous les soirs de la semaine. Sans doute, ils n'avaient pas ça, mais je pense qu'ils n'avaient pas non plus d'électricité, de chauffage central, d'eau courante, et que certainement, il fallait aller s'approvisionner tous les jours. Ils n'avaient pas de voiture et qu'ils devaient se déplacer à pied, ce qui prend aussi un petit peu de temps. Je ne suis pas certain qu'ils avaient plus de temps que nous, en fait. Comment est-ce possible? Je crois que c'est possible parce que cette vie est agréable. Cette vie est agréable. Et on le voit dans le texte, on nous parle de joie. On nous parle d'un cœur simple, on ne se prend pas la tête. D'un seul cœur, ils font les choses d'un seul cœur, unis. On a l'impression qu'ils vibrent pour la même chose. Qu'est-ce qu'ils y vivent? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? J'ai déjà cité quatre points. Le premier, c'est ils écoutent l'enseignement régulièrement et fidèlement, ils écoutent cet enseignement. Et s'ils y reviennent, c'est parce que je pense il répond à des questions qu'ils se posent. Il est pertinent, il est compréhensible, il leur parle. Parce que cet enseignement est vivant, parce qu'il est donné par les apôtres, des gens qui ont marché avec Jésus, des gens qui vivent ce qu'ils enseignent. Un enseignement qui donne envie d'y retourner. Ils vivent comme des frères et sœurs également. Vivre comme des frères et sœurs, vivre ce qu'on appelle la communion fraternelle, c'est plus qu'avoir de la sympathie les uns pour les autres. C'est être unis. Et ils le sont à tel point qu'ils mettent leurs biens en commun et qu'ils les répartissent selon les besoins de chacun. Cette répartition, ça implique, je crois, qu'ils connaissaient, ils se connaissaient suffisamment pour connaître les besoins de chacun. Ils n'avaient pas un service social qui organisait les collectes et les distributions. D'ailleurs, ça leur a posé problème 4 chapitres plus tard, au chapitre 6. Non, c'est vraiment spontané et basé sur la connaissance qu'ils ont les uns les autres. Ils partagent le pain, c'est-à-dire qu'ils prennent la Sainte Cène. Ils communient directement, ensemble, sans avoir besoin d'un prêtre comme intermédiaire. Et ils ont conscience de la signification de ce geste. En prenant ce repas, ils se revêtent du sacrifice de Jésus et qu'ils sont liés les uns aux autres par ce sacrifice. Et enfin, quatrième pilier de cette vie d'église, de cette vie ensemble, ils prient ensemble. Ils prient d'une même voix, d'un même cœur, et ils vont le faire au temple, ce lieu qui est associé à la présence de Dieu. Ils se tournent vers Dieu, j'imagine avec un cœur plein de reconnaissance, puisqu'ils chantent ses louanges, et ils les chantent tellement que les gens autour d'eux les entendent. Et avec cette vie, ils sont visibles. Tout le monde est interpellé, tout le monde est dans la crainte de voir les miracles faits par les apôtres. Et tout le monde a cette bonne impression, ce bon témoignage rendu sur ces chrétiens qui vivent cela. Ils interpellent par la vie qu'ils mènent. Qu'est-ce qu'on fait d'un passage comme cela? Qu'est-ce qu'on fait d'un tel passage biblique qui pourrait nous donner des complexes? Qu'en faire? Déjà, c'est un récit. C'est pas un ordre qui nous est donné, donc c'est pas forcément normatif. C'est le témoignage d'une vie qu'ils ont donnée. et cette vie, est-ce qu'elle est encore pour nous aujourd'hui ou est-ce qu'elle était réservée au premier temps? On est quand même dans une période particulière. Le Saint-Esprit s'est manifesté de façon visible, extraordinaire. Pour la première fois, il marque le coup dans cette ville de Jérusalem. Est-ce que c'était réservé pour ces temps-là? Moi, j'ai envie de vivre ces choses. Il disait, c'est un texte que j'aime, c'est un texte qui me fait vibrer, c'est quelque chose que j'aimerais vivre. J'ai envie de voir toutes ces choses, j'ai envie d'être conduit par l'enthousiasme. Et si c'est le Saint-Esprit le moteur de tout cela, je crois que nous pouvons le rechercher. Nous pouvons le rechercher, nous pouvons le viser, comme je le disais au début, viser cette vie, ce qui était là au premier moment, au premier amour entre l'Église et son Seigneur. Et nous pouvons, en tant qu'Église, essayer de mettre des choses en place pour le vivre. Comment on fait? Je crois que, en tout cas, tel que je le comprends, la clé se trouve au verset 46. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple, ils partagent le pain dans les maisons, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Et j'ai mis en valeur trois termes, chaque jour, dans le temple et dans les maisons. Le terme groupe de maisons n'est pas employé dans la Bible. Cependant, je vois dans ce texte qu'ils ne vivent pas uniquement tous ensemble au culte le dimanche matin. Ils ont une vie à deux niveaux. Une vie tous ensemble et une vie en plus petits groupes. Et nous pouvons, quand on recherche cette vie, quand on recherche cette vie enthousiaste, nous pouvons en Église s'organiser, s'inspirer de cette organisation. Et chercher, nous aussi, à vivre à deux niveaux, avoir des temps tous ensemble avec des choses peut-être qui sont plus adaptées, comme l'enseignement, comme la prière, le culte, la louange, et des choses qui sont plus adaptées en plus petits comités, en petits groupes, où on peut travailler les relations, vivre le soutien mutuel, vivre la croissance spirituelle et se stimuler dans cette croissance. C'est pour ça que nous avons voulu mettre en place un réseau de groupes de maisons. Anne-Marie l'a mis en valeur, vous les avez tous vus devant vous. Un réseau de groupes de maisons en plus du culte pour aller plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de maisons? Un groupe de maisons, ce n'est pas une activité de l'Église destinée à remplir nos soirées. Nous avons plein de choses très intéressantes à faire de nos soirées et tout particulièrement les passer avec des amis et en particulier des amis non chrétiens, mais c'est une autre histoire. On ne cherche pas à remplir absolument nos soirées. Un groupe de maison, c'est un petit groupe de personnes qui est lié à l'Église, c'est un groupe de maison de l'Église, en lien avec l'Église, et qui a pour objectif de grandir spirituellement et fraternellement. Un groupe, petit par la taille, lié à l'Église, en lien avec l'Église, et dont le but, c'est la croissance de chacun, dans la fraternité, c'est-à-dire dans les relations avec les autres, et dans la spiritualité, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. Et donc, je vais partager avec vous les cinq objectifs qu'on donne à nos groupes de maison. Ils ont été déjà illustrés par les personnes qui sont venues devant. Je l'ai répété, peut permettre de structurer cela. Premier objectif, bâtir un relationnel fort. Le culte nous permet de faire connaissance, de nous reconnaître, de sympathiser, mais pas forcément de connaître les préoccupations de chacun, de connaître les sujets Oh, pas les sujets très graves, mais les sujets qui sont importants pour moi. Ils ne permettent pas de partager mes inquiétudes quotidiennes ou de façon plus positive, de nous réjouir des victoires. Et ça, c'est plus facile à faire dans un groupe plus petit. Et c'est pour ça qu'on vise des groupes de maison entre 6 et 12 personnes. C'est un bon nombre pour tous se connaître, pour être capable de se livrer, d'être dans un environnement où on peut avoir confiance. Et de ce fait, il y a des belles relations qui se créent. Et les 4 groupes que vous avez vus ici, c'est aussi 4 groupes où l'amitié grandit entre des gens qui ne se seraient pas forcément trouvés, qui ne se seraient pas forcément associés, si ce n'était pas mis comme ça, parfois par hasard, parfois parce que je connais une personne, parfois parce que c'est juste le groupe le plus près de chez moi. Bâtir un relationnel fort, tel que Jésus nous le commande, aimez-vous les uns les autres. Deuxième objectif, prier les uns pour les autres. Notre culte permet de prier pour tout le monde, vous avez vu, on a prié pour les familles, ceux qui le demandent, et comme ça, chaque famille passe 2 fois par an. Je ne sais pas ce que ça deviendra lorsqu'on sera plus nombreux. On a aussi une réunion de prière qui nous permet ensemble de prier pour notre Église, et c'est très important de nous unir pour agir. Mais prier pour nos préoccupations quotidiennes, pour les petits soucis qu'on peut avoir au travail, dans nos relations, matériellement, ça c'est plus dur, juste quand on se retrouve 1h30 le dimanche matin. Un groupe de maison qu'on revoit toutes les 2 semaines, ça permet de partager, confier nos soucis, de lutter ensemble dans la prière, de voir ensemble la joie des exaucements également. C'est particulièrement facile quand on le construit sur le relationnel fort qu'on a pu mettre en place. Priez les uns pour les autres, recommande Jacques. C'est ce que nous pouvons le faire dans les groupes de maison. Troisième objectif, mieux connaître la Bible. Le culte permet d'avoir une prédication d'assez bonne qualité, je l'espère. Un prédicateur explique un texte biblique, s'efforce d'être pertinent pour tous. Mais c'est pas un lieu où je peux interrompre et poser mes questions sur ce que je ne comprends pas. Ce n'est pas non plus un lieu où je suis confronté au texte biblique, où je cherche par moi-même. Ce n'est pas un lieu où j'apprends à chercher dans le texte biblique pour essayer de le comprendre. Pas toujours clair, ces textes qui ont été écrits pour les plus récents, il y a 20 siècles. Un groupe de maison, ça permet ça. Ça permet de faire des études sur les textes ensemble, de chercher à le comprendre, de chercher comment l'interpréter. Ça permet aussi de reprendre les prédications où on revient sur ce qui a été dit, de confronter la façon dont on comprend les choses. Ça permet de vivre cette recommandation de Paul. Instruisez-vous les uns les autres. Quatrième objectif des groupes de maison, passer de la connaissance à la pratique ou mettre la théorie en pratique. Nous le disions, le culte apporte une prédication, le prédicateur propose des pistes d'application, mais c'est peut-être un peu générique, pas forcément adapté à ma situation. Le groupe de maison permet de réfléchir avec d'autres comment l'appliquer à ma vie. D'autant plus que je suis dans un groupe qui me connaît, qui m'accueille tel que je suis. Un groupe où je suis en sécurité. Un groupe qui pourra prier pour que je mette effectivement en pratique ce que j'ai vu. un groupe qui pourra me demander la fois suivante. Comment est-ce que j'y arrive? Un groupe qui pourra m'encourager à persévérer lorsque c'est difficile. Confessez vos péchés les uns aux autres, invite Jacques. C'est une facette de mettre, de passer à la pratique que de lutter contre le péché dans nos vies et de le faire ensemble. Enfin, cinquième objectif que nous donnons à nos groupes de maison, celui de partager un souci pastoral. Le culte, la fin du culte, ça permet d'échanger en coup de vent avec le pasteur, avec les anciens. Échanger en coup de vent avec la grande chance d'être interrompu par quelqu'un d'autre qui passe, par tout le monde qui passe. Alors il y a bien sûr la possibilité de prendre rendez-vous, mais on peut y avoir des blocages. On peut se demander, oh, est-ce que ça vaut vraiment le coup, mon petit problème, de prendre rendez-vous pour ça? Est-ce que le pasteur sera disponible pour ça? Mais on a besoin de partager. De partager même quand des petites choses ne vont pas. Et dans un groupe où la confidentialité est une règle, et la confidentialité est une règle de nos groupes de maison, eh bien, ça donne la possibilité de s'ouvrir et de se soutenir. Et en tant que pasteur, je ne m'inquiète pas pour ceux qui sont dans un groupe de maison. Je sais qu'ils sont entourés. Je sais que s'ils ont un problème, ils ont des personnes à qui ils en parlent facilement. Que si c'est trop gros, ils savent le guider, soit le renvoyer vers moi, soit le renvoyer vers un spécialiste. Et rejoindre un groupe de maison, c'est comme ça que je le vis depuis quelques années, où on a vraiment mis un effort dessus, que c'est une force pour le lien et le soutien pastoral dans l'Église. Prenez soin les uns des autres. C'est ce que Paul écrivait à l'église de Corinthe et qui reste comme une ordonnance pour nous. Cinq objectifs donc que nous donnons à nos groupes de maison. Ce découpage, c'est nous qui le faisons. Un culte, d'une part, pour vivre ensemble, pour être stimulés, pour suivre un mouvement commun. Et puis, des groupes de maison pour aller plus loin, de façon plus personnelle, de façon plus individuelle. Et ça, c'est pas une obligation. Ça, c'est un objectif que nous nous sommes rappelés, l'objectif de vivre une vie riche avec le Seigneur. Une vie riche comme la vivaient les premiers chrétiens, les premiers disciples, ceux qui étaient membres de l'Église de Jérusalem. Nous avons donc mis en place un système à deux niveaux, culte et groupe de maison, comme deux pieds sur lesquels s'appuyer. Ne pas rester sur un seul pied en déséquilibre, mais avoir un équilibre dans sa vie chrétienne. Les groupes de maison ne sont pas la seule façon de vivre la richesse de l'Évangile. Mais c'est la manière dont nous avons choisi, c'est là-dessus que nous faisons porter l'effort. Et je vous encourage, moi aussi, à participer au groupe de maison, mais de toute manière, que vous y participiez ou pas, je vous invite à rechercher cette vie riche, enthousiaste, qu'avaient les premiers chrétiens, régulièrement et fidèlement, ensemble, à chercher à grandir avec Dieu. Je vais prier. Seigneur, tu laisses à ton Église pas mal de latitude pour s'organiser. Et tu vois comment nous voulons nous organiser avec les groupes de maison. J'aimerais te prier que tu nous aides à continuer à le faire d'une façon qui permette à chacun de grandir. J'aimerais te prier tout particulièrement pour les responsables de groupes de maison, que tu les équipes, que tu leur donnes ta sagesse pour bien réagir dans les différentes situations auxquelles ils sont confrontés. Et Seigneur, j'aimerais te prier surtout que tu maintiennes en nous l'enthousiasme, que tu le ravives et que tu nous aides à vivre en suivant cet enthousiasme, la vie pleine, entière, à laquelle tu nous destines. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.